Manuel contre le harcèlement au travail, d'Élise Fabing, lu par Flore Lurienne. Dans tout ce processus d'échange de messages et d'obtention de pièces, le ton que vous allez employer est fondamental. Car il ne s'agit pas tout à coup de vous mettre à écrire des mails ultra-procéduriers à vos supérieurs. D'une part parce qu'il n'est pas certain que cela n'empire pas la situation. D'autre part, parce qu'au moment où vous commencez à mettre des pièces de côté, votre objectif est avant tout de vous protéger. Je conseille alors toujours de trouver la juste formulation, celle qui vous protège sans pour autant alerter votre employeur. Les erreurs à éviter. Ne vous tirez pas une balle dans le pied. Traduction, évitez de réagir à chaud. J'ai déjà lu des dossiers dans lesquels la personne avoue certains manquements professionnels en les justifiant par un contexte peu motivant. Une cliente, par exemple, écrivait dans un mail à ses supérieurs ne plus réussir à arriver à l'heure à son travail par angoisse d'y venir. Une autre avait écrit à son harceleur que, même si elle le trouvait attirant, il n'avait pas le droit de la toucher sans son consentement. L'objectif est donc de balayer toute maladresse. Quant à votre colère, ne la traduisez pas telle qu'elle à l'écrit. Il est important de peser chaque mot. Prenez du recul. Si vous avez besoin d'écrire un message pour notifier une situation toxique, rédigez-le, puis laissez-le reposer. Vous pourrez y revenir ensuite, le modifier et le faire relire par quelqu'un avant de l'envoyer. Le juste équilibre. Le plus souvent, j'aiguille mon client ou ma cliente en sous-main. Concrètement, cela veut dire que je leur donne des lignes directrices, mais que c'est eux qui rédigent ensuite avec des mots qui leur ressemblent, à eux comme à vous. Je conseille donc de croiser deux données pour envoyer les bons messages. 1. Votre objectif final. Chacun a le sien et c'est à vous de le déterminer, car en fonction des cas, vous voudrez assainir une situation toxique et obtenir une protection pour travailler sereinement, vous protéger d'un licenciement, partir de l'entreprise après, le cas échéant, une négociation, poursuivre votre employeur en justice. Ce sont des situations très différentes qui impliquent d'utiliser une stratégie et des mots-clés adéquats. Par exemple, une de mes clientes, victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, souhaitait rester dans son entreprise par le biais d'une mutation interne. Elle n'a donc pas fait valoir les conséquences du harcèlement sur sa santé afin que les RH la sentent capable de prendre un poste équivalent dans la société. En revanche, pour quelqu'un qui sait qu'il souhaite partir, c'est un point sur lequel on insistera, notamment en envisageant avec son médecin traitant une déclaration du caractère professionnel de sa maladie lorsque cela est possible. Celle-ci pourra alors déclencher une indemnisation supplémentaire pour le préjudice subi. Voir chapitre suivant. 2. Votre personnalité. L'idéal est de se sentir à l'aise avec le processus et donc d'adapter ses démarches à ce que l'on se sent capable d'assumer. L'une de mes clientes victimes de harcèlement sexuel n'osait par exemple pas dénoncer formellement les faits, par peur de perdre son travail. Nous avons donc convenu qu'elle écrirait des textos à l'une de ses collègues pour obtenir une trace écrite de ce qu'il s'était passé. La collègue, également victime et témoin, a ainsi pu confirmer certains faits en retour. Ces échanges de messages ont ensuite servi de preuve pour faire cesser les faits et demander une réparation. Mot d'ordre donc, interrogez-vous et écoutez-vous.